Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonjour, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On refait le match 22e de la saison 22. On salue les auditeurs des Côtes d'Armor, comme vous tous d'ailleurs, par ailleurs, qui êtes toujours aussi nombreux partout en France et au-delà des frontières à nous écouter. 509 000 auditeurs entre 18h30 et 20h. Premier talk foot. Grâce à votre fidélité, grâce à nos talentueux chroniqueurs, émission 100% interactive et de partage. Filmé, vous le savez, sur RTL.fr ou via l'application avec toutes ces émissions et tous ces podcast, 20h-23h, la suite du programme RTL Foot et l'intégralité, notamment mais pas seulement, dans GPSEG. Alors que depuis 17h, Marseille reçoit Nîmes. Dans un instant, on ira et même très rapidement au Vélodrome, car tenez-vous bien, c'est Nîmes. Nîmes qui mène à Marseille par 2-0. Avec moi ce soir, Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot de RTL. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Florian Gazan, multithématique sur RTL, dont la grosse cote évidemment, chaque samedi, 8h du matin. Bonsoir.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Gilles Verdez, le procureur dont refait le match. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Et Sébastien Tarago, la chaîne L'Équipe. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous.
Occasion pour nous tous d'avoir une pensée amicale pour nos confrères du quotidien qui sont dans le dur actuellement. Conflit social, 7 jours de non-parution du journal L'Équipe, ça nous manque. Vous transmettrez tout cela évidemment, Sébastien, ce message d'amitié à vos confrères et à
les
vos
amis de France Football également.
Et je pense aussi à nos chroniqueurs débatteurs venus participer à toutes les émissions foot et omnisports par le passé sur l'antenne de RTL. Ils se reconnaîtront. Au menu ce soir, jusqu'à 19h, les droits télé. Qui veut, qui peut sauver le football français au bord du chaos. Nous prolongerons après 19h avec la Coupe de France, couvre-feu 18h et possible reconfinement à venir, arrêt buffet ou pas pour une compétition patrimoniale. C'est la question que je vous poserai, messieurs. 19h15, le trophée des champions, remporté cette semaine par le PSG. C'est un vrai trophée ou c'est une mascarade? 19h30, peut-on encore chambrer dans le football? Vaste question. 19h45, les tirs au but, tout le reste de l'actualité football. A tout de suite, vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
RTL, on refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match. Qui peut sauver le football français au bord du chaos? On y reprendra dans un instant, ou on tentera d'y répondre dans un instant. Mais l'un des premiers événements foot de cette journée se prolonge. Match de 17h. C'est Marseille qui reçoit Nîmes. Et c'est Nîmes qui mène à Marseille par 2-0. Hugo Hamelin, bonsoir. Mais que se passe-t-il au Vélodrome?
Eh bien, c'est tout simplement une tempête gardoise, Christian, qui est en train d'emporter les ambitions de podium de l'Olympique de Marseille. 2-0, deux contre-attaques, et c'est très surprenant parce que le Nîmes Olympique avait passé vraiment la première mi-temps la tête sous l'eau. Les Marseillais avaient pilonné la cage de Baptiste Reynet sans parvenir à trouver l'ouverture. À la 35e, Florian Thauvin a raté un pénalty. Sa frappe du gauche s'est envolée au-dessus de la lucarne de Baptiste Reynet. Et sur deux contres, 54e, 57e, eh bien c'est Eliasson, un Suédois de 25 ans, l'attaquant du Nîmes Olympique. Ses premiers buts en Ligue 1, voilà, qui a inscrit un doublé, notamment un but du tibia sur le premier. Voilà, sur le deuxième, il était assez près également. C'est Johan Pelé qui défend la cage de l'Olympique de Marseille ce soir en l'absence de Steve Mandanda qui est toujours blessé depuis le trophée des champions. Mais André Villas-Boas ne sait que faire. Il a sorti Dimitri Payet, il a sorti Florian Thauvin pour faire rentrer Radonjić, Valère Germain et Mickaël Cuisance également. Marseille a le pied sur le ballon mais ne parvient pas à revenir dans ce match. Il reste moins d'un quart d'heure à jouer désormais. C'est bien Nîmes qui mène 2-0 au Vélodrome alors que depuis leur retour en Ligue 1 en 2018, ils ne s'étaient jamais imposés ici.
Alors j'ai été peut-être un peu distrait, je ne sais pas si Hugo a parlé du pénalty.
Oui.
D'accord. Hein, donc j'ai l'impression que les Marseillais ont laissé passer les trains avec.
Ils ont pilonné la cage de Baptiste René. Il doit y avoir une demi-douzaine de tirs cadrés en première mi-temps de Payet, de Benedetto et de Florian Thauvin.
Un commentaire, messieurs, sur cette prestation marseillaise, Gilles Verdez?
Le dilettantisme marseillais en première mi-temps est sidérant. Thauvin qui cadre pas un pénalty, Benedetto qui seul face au but fait n'importe quoi. À ce niveau-là, ce manque de rigueur. Et ce n'est pas un manque de chance, ce n'est pas un manque de réussite, c'est un manque d'implication. Donc il est tout à fait logique que ça se solde par une défaite.
Gilles, le problème, c'est qu'on va déjà avancer de deux cases pour aller sur un thème qui arrivera plus tard. Mais ce trophée des champions planté au milieu de deux journées de championnat pour l'OM, ce n'est pas un cadeau. Déjà que ce n'est pas un cadeau pour le PSG parce que ça arrive en plein mois de janvier sur un truc qui aurait dû se faire. Bon, c'est un ovni ce truc-là. Mais pour l'OM, ça a des conséquences directes. Ils y ont forcément laissé de l'influx, ils ont été à Lens. s'ils ont laissé, et ils arrivent sur ce match de championnat qui est important, ils sont pas à égalité avec les autres. Pour moi, ça vient rompre le cours de la compétition, un match comme celui-là.
Philippe, s'ils peuvent pas jouer deux matchs par semaine alors que la Coupe d'Europe s'est pliée, ils ont quand même un effectif assez
costaud. On a bien vu ce que ça donnait.
Et en face c'est Nîmes que je connais bien. On peut pas dire que c'est un foudre de guerre cette saison. Franchement, perdre à domicile, même s'il n'y a pas de public, 2-0 contre Nîmes, tu peux me donner tous les arguments de la terre, c'est pas normal.
Est-ce que Sébastien Tarrago garde ses munitions pour les autres débats ou préfère attendre la fin du match?
Non, 12 minutes, je pense que ça sent bon quand même, mais non, c'est juste sur le pénalty. À la rigueur, ça peut arriver, un pénalty raté. Bon, mais je rejoins ce qu'a dit Gilles par ailleurs. Vu la première période, l'Olympique de Marseille aurait dû faire beaucoup mieux. Et cette équipe de Nîmes est très moyenne. Ça, c'est une certitude. Après, mais effectivement, on va sur un autre terrain. Le trophée des champions, il se joue aussi, même si c'est absurde, parce qu'il faut de l'argent, c'est tout. On en revient même. Le football est dans un état français et voire européen, est dans un état cataclysmique, et dès qu'il y aura possibilité de faire un match pour prendre 1 million, 2 millions, 3 millions, on les jouera. Et c'est une catastrophe. Cette saison s'annonce dramatique parce que on en parle peu, mais le calendrier jusqu'à l'Euro est insensé.
La transition est presque faite, mais il y a un autre direct, si vous vous intéressez au handball. Il y a les championnats du monde qui se déroulent en Égypte. C'est la mi-temps entre la France et l'Autriche. Sachez-le, la France mène par 17 à 13. Donc, elle devrait aborder ce qu'on va appeler maintenant le tour principal. Parce que c'est un vrai marathon, le handball. On a besoin de faire rentrer des sous également. Donc, on fait des matchs.
Ça fait longtemps qu'on comprend mal.
Et là, non, mais ça fait pas longtemps. En plus, sur cette compétition, là, on est passé, je crois, de 24 à 32 équipes. Enfin, bref, faut faire rentrer l'argent dans les caisses.
C'est Infantino qui gère?
Qui peut sauver le football français au bord du chaos? Alors j'ai pris quelques notes de peur d'oublier évidemment les épisodes précédents. On va parler de ceux de cette semaine. Bon, l'acte fondateur, vous le savez tous, c'est Mediapro en cessation de paiement qui ne veut plus régler ses dettes et qui ne veut pas honorer son contrat. Et il faut trouver une solution pour faire rentrer de l'argent dans les caisses du football français. Mardi, interview chez nos confrères du Figaro, avec l'ami Baptiste Després d'ailleurs, qui vient très très souvent dans cette émission. Interview de Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal, qui annonce vouloir rendre le lot 3. Alors, on va essayer d'être très précis pour les auditeurs. Le lot 3 sont deux des belles affiches du championnat, celle du samedi à 21h et du dimanche à 17h. Canal Plus avait acquis auprès de beIN Sport, qui lui avait licencié pour 330 millions d'euros sur l'ensemble de la saison, ces deux matchs. Donc, d'une certaine façon, Canal Plus souhaite mettre le compteur à zéro pour remettre tous les matchs, l'O1, l'O2, l'O3, etc., à la disposition d'un nouvel appel d'offres. Sauf que les échéances approchent. Mediapro devrait faire écran noir le 31 janvier. Canal Plus devrait faire écran noir le 5 janvier. Que normalement, un appel d'offres, ça dure à minima, sauf procédure accélérée, au moins 3 mois. Nouvel épisode. Pas plus tard qu'hier, les chaînes de la TNT, en tout cas les chaînes en clair, se positionnent pour proposer, avec une initiative d'ailleurs de Nicolas de Taverneau, le président de M6, je rappelle que le groupe M6 est propriétaire de RTL, pour proposer des matchs sur les chaînes en clair. Alors on peut imaginer M6, W9. Attention, Nicolas Taverneau ne souhaite pas acheter des lots, mais dans une période de transition,
la jonction, quoi.
Cela permettrait de booster un peu et de rendre lisibles les partenaires.
Il est d'accord pour diffuser gratuitement des matchs.
Les partenaires.
Voilà. Et d'exposer le football.
Ouais,
c'est le bon côté des choses.
Ouais. Oui, mais de continuer aussi, et la chaîne L'Équipe pourrait le faire d'ailleurs.
Ça a a priori donné des idées à tout le monde.
De continuer. Alors TF1 et France Télévisions se sont encouffrés dans le sillage de Nicolas Taverneau.
Mais qu'il y a, ils sont sur le coup, je crois.
Et pour créer un peu de lien social, le temps que l'appel d'offres soit remis à une chaîne payante. Le problème est là. C'est que là, les chaînes en clair ne veulent pas payer, que les chaînes payantes ne veulent plus payer et qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses pour les clubs français. Alors où va-t-on?
On va droit dans le mur.
Sébastien Tarrago.
On va droit dans le mur. Il faut simplement espérer que, clairement, M. Bolloré, propriétaire de Canal+, revienne à de meilleurs sentiments. Moi, je pense que nos confrères du Monde ont dévoilé cette semaine que M. Bolloré voulait voir les présidents de L1 à genoux dans une mare de sang.
Ce qui n'a pas été confirmé.
Non.
Elle a été confirmée la veille de la parution de l'article. Donc,
il eût été journalistiquement intéressant que dans l'entourage du groupe Canal, on nous confirme cette phrase.
Oui, ils n'ont pas démenti de manière très forte.
Toits, mais...
Et en tout cas, on voit bien que M. Bolloré n'a pas pardonné aux dirigeants du football français ce qu'ils considèrent être un certain mépris et qu'il n'y aura pas de cadeau de la part de Canal+.
Il n'y a si pas vous... de raison qu'il y en ait d'ailleurs.
Oui, alors part. Si, il y a une raison, c'est qu'à un moment, si Canal+ récupère l'ensemble des droits, par exemple, de la Ligue 1, il ne faudrait pas non plus que ce soit une compétition avec des joueurs de 4e division. À un moment, il faudra quand même que le spectacle proposé par les clubs soit de bonne qualité pour Canal+ aussi. Donc, ils ne peuvent pas acheter ça 50 millions. Mais il y a un vrai problème là. Et si vous mettez à leur place, vous pouvez comprendre qu'ils veuillent rendre les droits, les lots, parce qu'eux, ils considèrent qu'ils ont acheté beaucoup trop cher.
330 millions, ben oui. Deux matchs sur l'ensemble de la saison. La moitié de la saison a été effectuée, donc en rendant les deux lots, Canal aura payé via Bein, puisque c'est encore...
Enfin, rendre les lots, c'est une manière élégante de faire du média pro. Hein.
Oui.
En gros, c'est on paye plus.
Et de ne pas payer les, combien alors la moitié de 330 millions, bien les 100,
130, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170, 170
c'est ce que je voulais répondre à Sébastien. Il me parle de vengeance, de ça, je n'y crois pas. Mais je me souviens très bien, au lendemain de l'attribution de l'ensemble des lots à Mediapro, je me souviens d'un dirigeant de Canal qui m'avait dit c'est une victoire pour Canal, au sens où ce prix est fou. Ce prix est fou. Mediapro, ce prix payé pour la Ligue 1, c'était une folie. C'était une folie de la Ligue d'avoir saucissonné, d'avoir trouvé un pigeon, mais un pigeon insolvable, parce que Mediapro, je vous l'ai dit depuis le début, c'était une coquille vide. Donc ça nous a mis dans une folie. Et le football français, combien il vaut? C'est ça le truc. Il vaut, de l'avis des gens, peut-être 600, 650 millions, pas plus. Au-delà, c'est de la charité. Il n'y en a pas dans le foot.
Canal... Je suis d'accord avec ce que tu dis, Gilles, mais Canal faisait alors déjà de la charité, puisque, à mes yeux et selon tes calculs...
Stop les amis, le vélodrome, le stade vélodrome Hugo Hamelin.
Avec un but pour l'Olympique de Marseille. Marseille qui revient à 2-1 à la 85e, but signé Dario Benedetto. C'est lui-même qui fait l'interception dans la défense nîmoise et qui va aligner Baptiste René. Il reste 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Marseille n'est plus mené que 2-1 face au Crocodile nîmois.
Alors j'ai rappelé tout à l'heure, merci Hugo, tu interviens dès que tu le souhaites. J'ai rappelé tout à l'heure que RTL était donc le groupe M6 possédait RTL. Il était juste de le rappeler. Je rappelle également que Gilles, vous travaillez
absolument
pour C8, qui est également la propriété du groupe de
tout
Vincent Bolloré, le Vivendi, bien évidemment. Sébastien Tarrago.
Non mais voilà, Canal+ surpayait déjà aussi les droits et a surpayé les deux matchs qu'il possède aujourd'hui avec la somme que vous avez annoncée. C'est très clair aussi. Donc il y avait déjà un petit peu de charité quand même.
Oui, et puis entre-temps, Canal+, privé de football, a découvert qu'ils pouvaient vivre sans le football, en tout cas survivre. Ils se sont complètement restructurés. Aujourd'hui, finalement, Canal+ a fait des bonnes affaires avec le rugby, avec la F1. Voilà, aujourd'hui, c'est un distributeur, Netflix, Disney, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, Canal a moins besoin du foot dans son intégralité. Peut-être qu'ils vont avoir besoin du match de 21h, la grosse affiche, c'est important. Mais finalement, peut-être que Canal pourrait vivre seulement avec ça. Donc la donne est complètement différente. Canal n'a plus ce besoin viscéral, historique qu'il avait.
Et la saison prochaine, oui, ils auront à nouveau la Ligue des Champions.
Oui. En plus.
Donc,
et ils ont déjà le football anglais.
Oui, bien sûr.
Oui, mais ce n'est pas des audiences non plus sur la longueur pérennisées aussi énormes. Et quoi qu'on en dise, il y a quand même beaucoup de bluff dans ce qu'a dit Monsieur Saada. Et ils ont besoin quand même, dans une moindre mesure
ils
qu'avant, mais ils en ont besoin.
Il y a juste le top 14 qui cartonne. Il y a le top 14 qui est devenu.
On n'est pas du tout sur les mêmes.
On est sur des audiences qui montent.
Mais il faut savoir, Philippe, si le projet industriel de Vivendi, du groupe Canal, maintenant a absolument besoin du championnat de France
de Ligue 1. Moins qu'avant, c'est une évidence.
Non, et puis Philippe, quand il y a Nîmes-Rennes, je pense que les audiences, on peut en parler à mon avis.
Par exemple. Voilà pourquoi il pose les pions du pay-per-view. On aura l'occasion peut-être d'en reparler aussi plus tard. Moi, je voulais juste rappeler, parce qu'on parle souvent de cette guéguerre et de cette volonté, avec cette phrase terrible de voir les dirigeants du foot français à genoux dans une mare de sang. Il faut revenir au tout début de l'histoire, c'est-à-dire sur l'appel d'offres précédent. Lorsque, et ça c'est François Hollande lui-même qui l'a révélé dans un livre après sa mandature, lorsque sur l'appel d'offres précédent, il avait pris son téléphone en tant que président de la République pour appeler l'émir du Qatar pour dire « Attention, il ne faut pas que Bein récupère l'ensemble des droits. » Et à ce moment-là, Canal, sur l'appel d'offres, alors qu'ils auraient dû se faire bananer par Bein, avait miraculeusement récupéré une partie des droits.
Mais où est-ce que vous voulez en venir?
Je veux en venir au fait que, au final, ça a eu pour effet mathématique de revoir à la baisse le montant global, c'était, mais qui était déjà très gros puisqu'on était à 850 millions. Mais tous les présidents de club et à la Ligue sont restés sur l'idée que sans l'intervention de l'État et sans le fait que Canal ait été finalement aidé par l'État français, ils auraient eu le fameux milliard dès l'appel d'offres précédent.
Je crois qu'on se perd en conjecture, Philippe, parce que c'est on fait le match ici, c'est pas on fait l'histoire. Hein.
C'est resté dans l'esprit de tous les dirigeants. Ouais, non, mais... Et c'est la raison pour laquelle ils ont mis en place l'appel d'offres pour Banané et Binin et Canal. Et c'est pour ça que Canal ne le supporte pas. Parce que c'est une histoire de vengeance à double verrou.
Oui, mais enfin, le tout est de savoir qu'est-ce que Canal ne supporte pas, d'avoir essuyé un camouflet pour ne pas avoir effectivement à un prix correct, et là on parle du projet industriel, récupérer les droits ou les principales affiches pour les 4 ans actuels, où Vincent Bolloré en fait une affaire personnelle par rapport au président
Gilles
club,
a raison là-dessus,
par rapport à Noël Le Graët.
Gilles a raison là-dessus, c'est pas juste maintenant. Une affaire personnelle, c'est des affaires.
Ça vient,
et on sait bien, et là ça va devenir complexe, donc on va pas rentrer dans les détails, mais que le groupe Canal+, en tout cas M. Bolloré, recherche aussi certaines faveurs de la part de l'État, sur notamment de la TVA, sur certaines activités.
Le cinéma notamment.
Voilà, et donc tout ça fait que ce ne sont pas seulement d'un côté les dirigeants du football français et de l'autre côté les dirigeants de Canal+.
Qui peut sauver le football au bord du chaos, faudra aussi trouver des solutions. Est-ce que le foot, en clair, solution transitoire, vous paraît être une bonne solution? C'est après une première page de publicité. On fait le match, 18h45. 89e minute au Vélodrome. Nîmes mène toujours à Marseille sur le score de 2-1. A tout de suite.
RTL, on refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match avec Philippe Sanfourche, Florian Gazan, Gilles Verdet, Sébastien Tarrago et au stade Vélodrome, Hugo Hamelin. Toujours 2-1 pour Nîmes face à Marseille. Hugo, le temps additionnel.
Ça y est, on est entré dedans depuis une minute désormais. Il y en aura 4 minutes de temps additionnel dans cette rencontre. 3 minutes donc pour l'OM qui va tenter d'égaliser alors que Nîmes est en train de gagner de précieuses secondes. On voit un dégagement là de Baptiste René et Nîmois qui reste au sol sur chaque contact, mais qui sont en train de réaliser vraiment un vrai petit exploit ici en tant que lanterne rouge au stade Vélodrome en s'imposant pour le moment 2-1 face à l'Olympique de Marseille grâce à un doublé d'Eliasson au retour des vestiaires.
À tout à l'heure pour la validation de ce résultat évidemment et commentaires, réactions à partir de 20h dans RTL Foot avec notamment Eric Silvestro et Xavier Domergue. Messieurs, il faut trouver maintenant des solutions, on est dans une situation transitoire, il faut penser aux téléspectateurs en même temps qu'ils écoutent la radio et donc les auditeurs. Je le disais tout à l'heure, Nicolas Terrano s'est proposé a envoyé un courrier à la Ligue du football professionnel pour diffuser un certain nombre de matchs, mais sans acquérir les lots, pour deux raisons. Pour préserver une certaine forme de lisibilité pour les sponsors qui existent encore, et pour continuer de tisser et de créer un lien social, et on en a besoin actuellement. Et une fois, encore une fois que l'appel d'offres sera remis en place, eh bien, il laissera évidemment ces matchs à celui qui aura payé plein pot. Est-ce que vous pensez que c'est une solution, Gilles Verdez?
Mais quand vous avez un produit, en l'occurrence la Ligue 1, qui se déprécie, qui reste stocké, que plus personne ne voit, il n'y a plus de gens dans les stades, à la télé, on se demande où ça va aller. Vous avez une initiative d'un patron de chaîne que tout le monde peut regarder, qui dit, montrez sur mes antennes votre produit.
Puisque de toute façon, il y aura écran noir, normalement, le 31 avec Mediapro et le 5 avec Canal.
Je pense que Mediapro sera encore là début février.
Alors ça, ce serait un scandale.
Oui, un de plus, mais enfin, on n'en est pas. En tout cas, à l'heure qu'il est, c'est la journée du début février est programmée sur Mediapro.
C'est gagnant-gagnant. Donc, c'est une très bonne initiative. Et la Ligue, plutôt que de mégoter, oui, mon lot, mon machin, je veux mon milliard, parce qu'ils sont perdus, ferait mieux d'accepter, une remise à plat globale, et deux, qu'on diffuse des matchs en clair.
Philippe s'en fout du tout. C'est-à-dire qu'on expliquait tout à l'heure, comme le disait Sébastien, qu'en ce moment, on est prêt à faire un match à Lens entre deux journées de championnat qui ressemblent à rien, juste pour aller récupérer 500 000 ou 1 million par là. Vous ne pensez pas que la Ligue va s'amuser de manière pérenne sur 2, 3, 4, 5 jours comme ça à donner des matchs
et
de manière gratuite.
Plutôt d'avoir rien du tout, autant avoir un petit peu.
Ils vont créer une plateforme et ils vont mettre
une
des matchs.
Une plateforme avec
mais vous rigolez.
Qui va pas marcher, mais ça va être encore ridicule.
Même si ça marche pas, ça marchera peut-être pour 50 000 personnes, pour 100 000 personnes. Et ils vont récupérer par là 1 million, par là 2 millions.
Moi je pense que ce qui intéresse.
C'est ça qui va se passer.
Ce qui intéresse les gens. Pay-per-view alors. Alors chacun peut acheter.
Non mais ça c'est ça de toute manière.
C'est l'avenir, on y arrivera. Ça va peut-être simplement booster les choses plus rapidement.
J'espère pas parce qu'en Angleterre. L'autre fois, j'étais en Angleterre pour le travail. Il y avait Aston Villa, Burnley à la télévision, il fallait l'acheter sur Amazon, et je crois que ça coûtait 16 ou 17 pounds, donc quasiment 20 euros.
La qualité de voir
Burnley,
ça,
c'est Burnley, Aston Villa,
on est
je
d'accord.
Sais pas si vous imaginez.
Après, là, qu'est-ce qui pêche dans l'exemple qui vient d'être donné? C'est le prix.
Ben, bien sûr.
Ah, oui. Mais le système, il correspond précisément à ce qu'attendent et ce que veulent la
génération. Il y aura un problème.
Il y aura un problème parce que le pay-per-view pose plein de problèmes. Mais d'abord, une lisibilité de finances pour les clubs. Qui va acheter quoi, quel match, et qui va acheter Dijon-Brest?
Mais vous faites l'erreur de penser
Marseille.
Encore par les clubs. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, c'est comme on veut le milliard, on veut le milliard. Mais en fait, il faut regarder le marché. Il faut regarder la typologie des consommateurs. Et aujourd'hui, il n'y a plus un consommateur sur la génération des moins de 30 ans. Il n'y a pas. Vous ne trouverez pas une personne qui va vous dire, mais c'est formidable, moi je vais payer pendant deux ans, je vais m'engager, et c'est 40 euros par mois, mais c'est fini ça, ça n'existe plus.
Florian Gazan.
Il faut revisiter le modèle, parce qu'aujourd'hui il y a aussi des gros problèmes de piratage, les gens avec le streaming, avec les boîtiers IP, c'est hyper facile de voir les matchs du monde entier. De toute façon, ce vieux modèle là, il est mort, et en plus on a les GAFA qui vont arriver sur le marché, qui eux fonctionnent plutôt comme ça, et c'est là aussi, il faut revoir ce truc là, il faut arrêter de penser avec ces gros blocs de matchs. C'est terminé, ça.
Oui, sauf que je veux bien ce modèle de pay-per-view, ce modèle de vous acheter à la carte, qui correspond effectivement au fait que les jeunes veulent consommer ce qu'ils ont envie de consommer et pas qu'on leur impose. Mais les jeunes, ils payent pas. Pourquoi Netflix, ça marche? Parce que c'est des abonnements familiaux. Le père de famille ou la mère de famille paye. Tout le monde peut voir. Et puis moi, si j'ai un abonnement, je peux même vous le donner, Philippe. Vous êtes mon invité. Mais sur des matchs en pay-per-view, les jeunes ne paieront pas.
Non, mais
En France, il n'y a pas de marché.
Et en France, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de modèle économique. Vous allez acheter 200 000 personnes qui vont acheter un PSG Marseille mais qui n'achètent jamais un Dijon Brest. Les plus gros clubs voudront récupérer la mise et diront eh, moi je suis au PSG, moi je suis à Marseille, je veux récupérer.
Mais parce que Christian, c'est encore autre chose, mais le football marche sur la tête et vit dans une économie qui ne correspond à rien. Donc la réalité de tous les discours que vous tenez depuis tout à l'heure, c'est que fondamentalement, il faudrait que les revenus des clubs soient divisés, revenus télévision des clubs soient divisés sans doute par 5, et que les salaires soient divisés par 5, et que etc etc, parce que le monde du football marche sur la tête et que aujourd'hui on ne peut plus, dans un monde comme le nôtre, avoir des joueurs, même si c'est exceptionnel, qui sont payés 30-40 millions.
On y viendra, Sébastien. Je rappelle qu'il y a un diffuseur qui propose une nouvelle consommation, c'est free, pour 50 millions d'euros.
Ouais, des extraits. C'est pas du football.
C'est pas du football. Mais bien sûr que c'est du football. Tu as des buts, tu as des extraits des plus belles occasions, tu as des émissions, ça existe. Tu me parlais de la nouvelle consommation. La voilà.
Alors moi, je parle pas de nouvelle consommation parce que je la comprends pas. Mais c'est pas grave. Moi, je suis prêt à payer 40 euros. Pour avoir toute la Ligue 1.
Le stade Vélodrome Hugo Hamelin, match terminé.
C'est terminé, énorme contre-performance de l'Olympique de Marseille, 6e au classement au coup d'envoi, avec cette défaite donc nette et précise face à la lanterne rouge du championnat. Eliasson, l'attaquant du Nîmes Olympique, a signé un doublé en début de seconde période et Florian Thauvin peut prendre la tête à deux mains puisqu'il a raté un pénalty à la 35e minute quand l'OM dominait outrageusement. Les débats, les changements de André Villas-Boas n'ont rien changé et les supporters attendent encore plus désormais Milic, l'attaquant polonais de Naples, qui pourrait eh bien convertir les nombreuses occasions que l'Olympique de Marseille a eues en première période.
Merci Hugo. 20h, je rappelle le rendez-vous, décryptage de ce match, de cette contre-performance de l'Olympique de Marseille et évidemment première réaction. On va parler des solutions effectivement dans un instant. On parlait de la nouvelle consommation avec Free, mais alors la nouvelle consommation en pay-per-view peut-être trouver une solution sur la plateforme, par exemple, de Canal. MyCanal, proposant effectivement les 10 matchs, d'autres programmes sur le football et avec deux types de paiements pour le match, pay-per-view, ou pour l'ensemble du programme.
Ça a déjà existé.
Là, on reviendrait avec une lisibilité.
Sauf qu'il faut les produire, les matchs. Ça coûte cher de produire un match de football.
Et quand
il y aura Dijon-Brest, on y revient, je ne suis pas sûr qu'ils arriveront à l'équilibre. Même sûr du contraire.
Mais ça, c'est déjà le cas, Sébastien, parce que de toute façon.
Mais non, parce que tu vends une offre globale.
Oui, mais l'offre globale, c'est très bien qu'il y a des matchs qui vont faire d'énormes audiences et d'autres qui vont faire.
Oui, mais justement,
tu as
une offre globale.
Ça s'équilibre.
Après, là, oui, mais quand tu fais Dijon-Brest, si tu fais du pay-per-view, ça s'équilibre.
Mais le match à la demande, il a déjà existé. Il y a quelques années sur Canal, tu avais différents canaux avec tous les matchs et tu achetais celui que tu voulais. Je veux dire, c'est un truc qui a déjà existé. Mais c'est aussi une réalité économique. Les gens,
ça n'a pas marché, hein.
Ça n'a pas marché.
Le kiosque. C'était le kiosque.
Oui, non, parce que c'était canal satellite, machin, tout le monde ne l'avait pas. C'est le tuyau aussi qui
Vous savez comment ça marche aux États-Unis?
Ah oui, mais c'est une autre culture.
Vous pouvez
même acheter le dernier quart temps en NBA.
Ben oui.
Alors on pourra acheter aussi le dernier quart d'heure
mais pourquoi pas,
la folie en France, ça a été de morceler à tel point que le consommateur, parce qu'il faut repartir du consommateur, il doit payer une fortune pour avoir des trucs qui marchent pas, c'est incompréhensible. Si vous n'avez pas le bon bouquet, la bonne box, c'est infernal pour le consommateur. Il faut un partenaire unique qui a effectivement la Ligue 1 et qui après peut dispatcher lui des matchs en prime, des matchs premium, des petits matchs sur MyCanal par exemple, ou ailleurs. Mais un partenaire unique, c'est en morcelant, en voulant faire du fric, que la Ligue de football a cassé toute cette Ligue 1. C'est de sa faute à elle.
Après 19h, je vous proposerai quelques solutions parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. Il faut bien comprendre que désormais, au 31 janvier, les clubs n'ont plus aucune ressource pour payer leurs joueurs. Donc, est-ce qu'on peut imaginer une baisse des salaires? Est-ce qu'on peut imaginer un plafonnement des salaires? Est-ce qu'on peut imaginer un nouveau rapport de travail avec les agents? Est-ce qu'on peut imaginer de travailler davantage sur la formation? Est-ce qu'on peut imaginer de réduire les effectifs? Est-ce que pour un moyen ou long terme, on peut imaginer un championnat désormais non plus à 20, à 18 ou 16 clubs? On en parlera évidemment après les informations de 19h. C'est On refait le match, 18h58, dans l'immédiat, la publicité.
RTL, on refait le match.
Passez une bonne soirée sur RTL.
RTL, toujours avec vous.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On fait le match jusqu'à 20h. Restez avec nous. Émission filmée sur RTL.fr, via l'application également. Émission que vous pourrez réécouter en podcast. Dans un instant, vos messages grâce à Baptiste Durieux. On fait le match avec Philippe Sanfourche, Florian Gazan, Gilles Verdez et Sébastien Tarago. En handball, la France mène toujours devant l'Autriche 27-21, championnat du monde. Et en football, Alexandre de Saint-Aignan vous l'a dit dans le flash de 20h, l'équipe de Marseille s'est inclinée à domicile devant Amiens sur le score de 2-1. La question
Nîmes.
De départ.
Nîmes.
2-1. J'ai
Nîmes.
Dit Amiens.
Amiens.
Ah oui, non.
Ils sont en Ligue 2.
Ils sont en Ligue 2.
Ouais.
Mais ils jouent. En ce moment, il y avait un peu de neige aussi.
Et vous savez pourquoi je pense à Amiens? Je pense au président Jouanin qui avait émis quelques idées de comment dire,
pour sortir de l'ornière.
Ouais, d'assainissement du football français, mais ces idées n'ont pas été
vachement suivies.
Alors justement les mesures. La question c'était qui peut sauver le football français, mais j'aurais dû dire d'ailleurs comment peut-on sauver le football français. Alors les solutions à très court terme, parce que l'argent n'est toujours plus dans les caisses. Je ne cesse de le répéter.
Vous rappelle qu'il y a des prêts à rembourser. Un jour, il faudra rembourser les prêts quand même.
Donc il y a certains clubs qui peuvent déposer le bilan, qui peuvent être en faillite avant la fin de la saison.
Il y a des clubs qui ont annoncé que, par exemple Dijon, je crois,
Olivier Delcourt,
oui, a annoncé qu'il pouvait payer, qu'il pouvait tenir jusqu'à la fin de saison, mais qu'après c'était fini.
Bon.
À Nîmes, on parlait de Nîmes, il y a une très grosse inquiétude à partir du mois de mars. Mars, c'est demain matin.
Mm-hmm.
Donc oui, fondamentalement, il y a des clubs qui peuvent se retrouver en cessation de paiement.
À Bordeaux, il y a des inquiétudes avec un personnel administratif mis également au chômage partiel. Et il y a
à Paris aussi. À Paris.
Bien sûr, il y a un plan.
Il y a un plan social. Il y a un chômage partiel à Paris.
Depuis début janvier, il y a effectivement du chômage partiel à Paris.
Et il y aurait d'ailleurs discussion sur le chômage partiel des 400 personnes administratives, marketing, services juridiques mis au chômage partiel. Donc l'État paye actuellement. Il me semblerait quand même qu'il y ait des clubs en France qui aient besoin de plus d'aide que le Paris Saint-Germain. Par les temps qui courent, mais le chômage partiel est pour tout le monde.
Mais vous allez voir
c'est la perversité du système.
On va l'avoir le championnat 16 clubs, vu qu'il y en a qui vont fermer.
Si vous faites le décompte de ce que le PSG verse à l'État chaque année, qui récupère quelques petits subsides de ci, de là, je pense que la balance reste quand même ultra, ultra, ultra déficitaire du côté du PSG vis-à-vis de l'État. Donc il ne faut pas non plus.
Oui, mais alors là, vous êtes un disciple de Raymond Domenech.
Oui, non, mettre mais alors là, dans l'esprit des gens que le PSG pique de l'argent à l'État.
Mais piquer n'est pas le terme.
Non, mais après, quand tu payes des salaires, tu payes des taxes, c'est normal.
Non, mais d'accord.
Piquer n'est pas le terme, évidemment. Profiter d'un système mis en place par l'État.
Et on peut s'en réjouir. Il ne s'agit pas de juger. Simplement, factuellement parlant, on est en France où les charges patronales et les charges salariales sont multipliées par 10 ou 15 par rapport aux autres.
On est d'accord. Alors je vais prendre le problème différemment, Philippe. Est-ce que les stars du Paris Saint-Germain ne pouvaient pas au moins symboliquement réduire légèrement leur salaire pour éviter que les administratifs soient au chômage partiel? Est-ce qu'au moins pour la fameuse communication dont on nous bassine à longueur de saison?
Là c'est autre chose, là c'est les joueurs, c'est pas l'entité, c'est pas le club.
Bon, alors la baisse des salaires, pour ou contre?
Bah évidemment, c'est difficile de dire qu'on est contre. Après, il y a baisse des salaires et baisse des salaires. C'est plus facile évidemment pour Neymar de baisser son salaire que pour Lucas Douanim. Après, ça dépend aussi de combien ils touchent. Ça dépend aussi en quel club ils sont. Ça dépend de plein de critères. C'est difficile d'avoir une position unique là-dessus. Et ce serait très démagogique de l'avoir d'ailleurs.
Gilles Vernez.
Il faut rappeler que donc les clubs étant des sociétés commerciales comme les autres, il y aura pas de décision unilatérale. Mmh. Il y aura des négociations,
bien sûr,
de gré à gré et au cas par cas. Parce que si vous faites un pourcentage, c'est pas possible, parce que Neymar va dire non mais moi en pourcentage c'est tant, donc c'est impossible. Si vous faites sur des sommes, une somme par exemple pour Neymar, ça va être rien, alors que pour un joueur payé moins, il y en a quand même beaucoup, ça va être très compliqué. Donc cette baisse des salaires, c'est un peu une chimère, c'est très compliqué à mettre en place. Mais néanmoins, il faut que le football arrête de vivre dans sa bulle. La bulle a explosé, on le disait tout à l'heure, Sébastien le disait, il faut changer les comportements. Donc il faut vivre avec son temps, il faut arrêter ces délires, il faut arrêter ces clubs avec des dirigeants partout, à tous les postes. Il faut arrêter ce football délirant. Après, on ne peut plus. La Ligue 1...
Mais ça va prendre du temps, Gilles.
Cette Ligue 1, elle est morte. Donc il faut refaire une Ligue 1.
Il y a une remise à niveau structurelle à faire, on est bien d'accord. Une révolution culturelle, c'est une évidence. Maintenant, il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos de la crise du moment, la crise du diffuseur. Qui vient se greffer sur une crise encore plus grave, qui est la crise sanitaire, qui fait qu'il n'y a plus de gens dans les stades et qu'il y a une situation économique globale qui fait que le mercato, le fait que les clubs français étaient de gros vendeurs et qui s'adressaient à des acheteurs qui n'en sont plus, c'est ça qui met...
Le Brexit avec l'Angleterre qui se ferme.
Voilà, parce que sinon, il y aurait des voies de sortie. Ce ne serait pas une période sympa, mais il y aurait des voies de sortie.
Alors,
il n'y en a plus.
J'ai compris. Vous n'êtes pas pour la baisse des salaires. Solution à moyen terme. Pour le
plafond. Ce n'est pas, c'est que, techniquement parlant, là, dans les semaines qui viennent,
il y a une solution d'urgence, Philippe. Il y a une solution d'urgence.
On peut pas
personne
ne
peut
pas.
Bon, d'accord. Le plafonnement des salaires, solution à moyen terme là pour le coup, pour la saison prochaine. Plafonnement des salaires.
Mais même pas pour la saison prochaine. Il y a des contrats qui ont été signés. Sur, il reste un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Vous ne pouvez pas les remettre en cause sans l'accord du salarié. Et ça, c'est logique. Donc c'est quelque chose qui se fera, si cela se fait, sur du long terme. Mais moi je souhaite, j'espère qu'on reviendra à la raison sur le moyen terme. Mais à court terme, moi je n'ai pas la solution et je pense qu'à l'heure qu'il est, personne n'a la solution.
1,580 milliard d'euros de salaire saison 2018-2019 pour les 20 clubs de Ligue 1. Gilles Verdez.
Que les salaires globalement soit plafonné, je suis totalement pour. Ça s'appelle aux États-Unis le salary cap, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépasser une telle somme. Vous la répartissez.
Qui est largement contournée, Gilles.
Oui, alors bien sûr, mais un salary cap non contourné, ferme, avec des limitations. Mais attention, ça voudrait dire qu'en France, on ferait très attention, et on est souvent quand même en pointe avec notre DNCG, tout ça. Et puis à Barcelone, où ils ont 900 millions de dettes, non mais eux n'en tiendraient pas compte, on s'en fout des dettes, comme au Real Madrid à un moment, ils continueront à payer Messi, etc. Et donc le football français va encore diminuer. Ouais. Il faut un règlement, là on parle souvent de l'Europe,
qu'est-ce qu'il faut, Gilles,
à la table.
Être effectivement en situation de faiblesse sportive par rapport à Barcelone, ou voir les clubs français totalement disparaître.
Ils vont disparaître s'ils prennent des 8-0 en Coupe d'Europe tout le temps. Donc il faut... Non mais Christian, c'est à l'échelle de l'Europe, franchement.
Mais
là on dit parfois l'Europe ne fait rien.
Jamais.
Là c'est
ça
l'Europe du
jamais,
foot.
Gilles, parce que chacun...
Mais si vous réagissez comme ça, rien
n'arrivera
jamais.
Le football n'est pas une bulle.
Ça fait des années qu'on essaye.
Ne vit pas dans un monde parallèle.
Ah si, Philippe, quand même. Le football, c'est une bulle.
L'économie du foot s'est créée de manière un petit peu parallèle, mais au niveau des lois, de la réglementation que tu sembles vouloir, ça ne peut pas se décréter du jour au lendemain. Et j'ai envie de dire qu'avec le Brexit et l'ensemble des exemples qu'on peut avoir ces dernières années sur la possibilité d'unir les pensées et d'aller dans un futur commun, on n'est pas vraiment dans cette voie-là.
Messieurs, donc, vous êtes vraiment très anxiogènes. Je vous propose des solutions et vous les balayez les unes après les autres.
On est très réalistes. Bah, juste pour faire revenir sur le salaire.
J'ai d'autres solutions après.
Sur le plafonnement des salaires dont parlait Gilles, le salary cap, c'est une bonne idée, sauf qu'aux États-Unis ça marche parce que ce sont des ligues fermées. C'est-à-dire que finalement,
quel que soit votre classement au terme de l'année, vous serez dans le championnat l'année suivante. Donc c'est, ça change beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'on va parler d'une ligue fermée pour la Ligue 1? Alors, voilà, là, on va ouvrir d'autres grands dossiers. Là, c'est la Super League, la Coupe d'Europe.
On en
mais,
est pas là, ouais.
Ouais, mais il va falloir aussi se pencher là-dessus.
Réduire les effectifs. Il y a des clubs qui ont des effectifs pléthoriques. Réduire les effectifs. Vous êtes pour, vous êtes contre? C'est à moyen terme. Je sais bien que c'est pas une solution qu'on va mettre comme cela au 1er février.
Mais comme pour les salaires. Et donc changer les mentalités et changer le trading. Cette politique de trading, comme il y a eu à Monaco à un moment ou à Lille. Je vais acheter des dizaines de joueurs à Monaco, ils sont prêtés, on ne sait même plus combien il y en a. Donc on dit à un moment, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit oh ben là, on a 73 contrats, on va balayer tout ça. Mais ça, on ne devrait jamais avoir 73 ou 39 ou tout ce que vous voulez de contrats. Il faut limiter le nombre de contrats. Il faut changer aussi les mentalités. Plus de trading, réduire les commissions d'agents. Il faut que tout le monde s'y mette. Donc moi, je suis entièrement pour vos solutions. Il faut s'asseoir à une table et refonder le football entièrement.
Ouais, mais ça va être long, ça va être pareil. Pareil sur les jeunes joueurs. Interdire le fait qu'à 18 ans, un gamin qui a été formé dans un club puisse se barrer à l'étranger.
Comment tu fais?
Ben pareil,
la loi européenne, elle va pas t'aider là. Hein.
Ouais, mais il va falloir légiférer de toute manière.
Je pense que le drame du football, c'est l'arrêt Bosman. Le pauvre Bosman, il était fondamentalement pour rien parce que lui, il a souffert de sa situation. Mais depuis qu'on peut accumuler les stars notamment ou les très grands joueurs dans certains clubs, c'est le début des problèmes. Moi j'aimerais, parce que tu prends l'exemple de Barcelone. Aujourd'hui Barcelone est incapable de recruter qui que ce soit, hein. Ils voulaient Eric Garcia de Manchester City, ça coûtait pas très cher. Visiblement en janvier ils y arriveront pas.
Bah, même Depay, hein.
Bon, donc et si on parle de l'arrêt Bosman, c'est donc, vraiment mais non, on refait l'histoire mais, et c'est oui, plus
mais
on fait
oui,
le match,
mais Christian, il faudrait revenir à la raison. Oui, et à un moment, il faudrait qu'il y ait des talents dans différents championnats. Oui.
Mais je comprends votre argumentaire mis en place. Mais cessons de regarder dans le rétroviseur. Il faut avancer maintenant.
Mais avançons. Et ben parfois, revenir à la raison et revenir en arrière, c'est avancer. Mais bien sûr, il y a une réglementation européenne qui, à mes yeux, fait beaucoup de mal au football.
Là où je vous rejoins sur vos propositions globales, c'est qu'aujourd'hui, dans un monde, dans une société qui souffre, les auditeurs d'RTL qui nous écoutent, là, qui entendent parler de sommes phares, ils les connaissent, mais de sommes faramineuses. Aujourd'hui, tout le monde souffre. Il faut que le football, effectivement, baisse de 1, 2, 3, 4, 5 niveaux. Sinon, les gens vont continuer à se désintéresser de ces stars mondialement payées en disant « ça ne nous représente plus, au revoir ».
Je ne crois pas à ce discours sur le fait que parce qu'ils gagnent trop d'argent, on ne va plus s'intéresser à eux. C'est juste qu'il faut que ce soit une équation mathématique juste. C'est-à-dire que si effectivement ça génère tant de revenus qui soient redistribués aux acteurs du jeu, tant mieux. Mais aujourd'hui, il y a inadéquation. C'est-à-dire qu'il y a des salaires et globalement un montant de dépenses qui est largement supérieur à ce que ça vaut réellement. Et donc, pourquoi ?
Parce que tout le monde se sert. Et que tout le monde y a des intérêts financiers. Voilà la réalité. Aujourd'hui, dans le milieu du football, sur un transfert, par exemple, vous pouvez avoir trois commissions. Pourquoi ? Parce qu'il y a des rétrocommissions et parce que tout le monde se sert, y compris les dirigeants.
Arrêtez avec ce système des agents, effectivement.
Mais ce n'est pas les agents. C'est le monde du football
de
qui est malade.
Un agent, le joueur.
C'est le monde
le
du
joueur,
football.
Un agent. Mais oui. Et on ne passe pas par les clubs, on ne passe pas par les présidents, on ne passe pas par les entraîneurs.
Enfin, il faut...
L'agent la famille, gère avec le joueur et le joueur paye la commission. Ça évitera quand même une bulle.
Vous imaginez mais normalement, bien. C'est cela. Normalement, les agents, de toute façon, les agents officiels à la Fédération française de football sont payés par les joueurs. C'est-à-dire que pour des raisons pratiques, notamment pour que les agents soient payés, ce sont les clubs qui donnent les sous à l'agent. Mais si vous passez par un agent officiel, c'est intégré au salaire du joueur.
C'est défalqué
sur le joueur. Et il y a des charges sociales, le joueur paye des charges, paye des impôts. Donc ça existe déjà. Le problème, c'est que ça, c'est valable que pour les agents officiels.
Est-ce qu'on peut imaginer
supprimer ? Et il y a tout un tas d'intermédiaires.
Pour une période transitoire, les transferts.
Ah non, là, pour le coup, libre circulation des travailleurs, vous placez, on peut l'imaginer, mais c'est en totale illégalité par rapport aux règles transnationales européennes.
Ce serait pas souhaitable pour le football français, parce qu'on l'a dit, la balance est largement dans le sens des ventes par rapport aux achats. Donc si les clubs français ne peuvent plus vendre de joueurs, ils se coupent une grande partie de leur
revenu. Ce que je voulais dire par là, c'est un joueur signe son contrat et il va jusqu'au bout de son contrat.
Mais ça, mais vous voulez l'imposer.
Mais vous voulez l'imposer, évidemment. Un contrat, c'est un contrat.
Mais ça se casse, un contrat.
Ça se casse, oui.
Comment? C'est impossible.
Le football n'est pas au-dessus des lois, mais il faut que le football rentre dans la loi.
Bon,
la libre circulation des travailleurs, c'est joli à la base, évidemment. Mais, et vous allez dire, encore une fois, que je regarde dans le rétroviseur et que peut-être même que je suis
rétrograde,
pas de mais il n'y a aucun souci. Vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Mais moi, j'aimerais qu'on revienne à ce qui existait avant, on peut tout imaginer, mais qui est 3 joueurs étrangers, 5 joueurs étrangers par club. Moi, je l'aimerais parce que je pense que ça ferait du bien au football.
Les amis, on va tourner une page de publicité, on va prolonger encore un peu le débat. J'ai une autre solution, c'est de réduire la formule championnat à 18 ou à 16.
À 8 aussi.
On fait Paris-Marseille.
Le problème, Sébastien, c'est que je ne suis pas d'accord avec vous depuis 18h30. Et néanmoins, je suis bienveillant.
Mais oui,
et moi, je vous propose, je vous fais une solution. Et
je suis d'accord avec vous. Et vous savez quoi? Je me mettrai à genoux devant vous à la fin de l'émission.
Dans une mare de sang.
Dans une mare de sang.
Très mauvais.
Mais quel sang? La pub, la réduction du championnat à 18 ou voire 16 clubs. Et puis, on se transportera tranquillement sur la Coupe de France. La Coupe de France.
Mais les play-offs aussi. Vous n'avez pas
évoqué. Oui, mais on va y venir. On va y venir. Si on fait le match 19h18, publicité.
RTL, on refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
La suite d'On fait le match, toujours avec Philippe Sanfourche, Florian Gazan, Gilles Verdez, Sébastien Tarrago. Vous nous rejoignez, sachez que Marseille s'est incliné à domicile, non pas face à Amiens, mais face à Nîmes sur le score de 2-1, et qu'en handball, deuxième mi-temps championnat du monde, le score disparaît à l'instant où je voulais vous le communiquer. Je pense qu'il y a 36-24 pour l'équipe de France. 33-26. Voilà, totalement erroné ce score. 33-26 pour les handballeurs.
Vous étiez pas loin.
Championnat du monde. Émission interactive, filmée. Rejoignez-nous sur RTL.fr ou via le podcast, ou via l'application. Vous retrouverez d'ailleurs des podcasts. Vos messages également sur le compte Twitter @RTLFoot. Baptiste Durieux, bonsoir.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Effectivement, message d'Étienne sur le débat que vous aviez eu à l'instant, qui nous dit la solution n'existe pas. Dans l'urgence, oui, la baisse des salaires, un dégraissage intelligent, une restructuration économique globale, mais il faut une refonte profonde du football pour le long terme. Les problèmes sont visibles certes aujourd'hui, mais existent depuis des années. Puis message de Boris, s'il y a moins d'argent, c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Moins d'argent égale moins d'agents et moins de vermine qui tourne autour des joueurs et qui parasite les clubs, pas seulement d'un point de vue économique, nous dit Boris.
Et on peut préciser que tous les agents ne sont pas, j'ouvre les guillemets, des vermines, bien évidemment. Non, ils font honnêtement leur job.
C'est important de le dire, effectivement.
Le problème, c'est pas, mais les agents, oui, mais les dirigeants de clubs qui
sont pas tous compétents non plus.
Pour certains, se servent. Les intermédiaires sulfureux qui sont reçus par les dirigeants de club. Et voilà, derrière le mot agent, il y a beaucoup de choses.
Baptiste
les...
Durieux n'avait pas terminé. La Ligue 2 également, Baptiste, au programme de la soirée, bien évidemment.
Exactement, 0-0 sur presque toutes les pelouses entre Rodez et Pau, Auxerre, Châteauroux, Clermont-Dunkerque, Amiens, Le Havre et Guingamp-Nancy. Le seul but marqué est marqué par l'AC Ajaccio contre Caen, 1-0. On joue depuis 22 minutes de jeu. Sachez également que Toulouse s'est imposé 2-0 face à Grenoble. Et que le leader 3 s'est imposé également face à Sochaux 2-1, et que le match entre Valenciennes et le Paris FC et Chambly-Niort ont tous les deux été reportés, pas pour le Covid, mais pour la neige.
En raison de la neige, effectivement. Merci beaucoup Baptiste, à tout de suite, à tout à l'heure. Championnat à 18 ou à 16 clubs, c'est une proposition également que je vous formule, elle n'est pas franchement nouvelle, elle a existé d'ailleurs à partir de 1997 sur 4 ou 5 saisons, on n'a pas assisté à une déflation, donc est-ce que c'est la bonne solution? Et c'est entre les lignes peut-être que Maxime Saada, le président du directoire de Canal, dans son interview au Figaro mardi dernier, a allumé la mèche en disant que les clubs, 20 clubs, alors qu'il n'y a pas un véritable modèle économique, devaient peut-être revoir un peu la formule. Alors, 18 ou 16 clubs, Gilles Verdez?
Il faut évidemment réduire, mais attention, parce que plus vous réduisez, donc vous virez des équipes qui incarnaient la France du football, modestes, qui vont se retrouver donc en Ligue 2. D'autres de Ligue 2 vont tomber en National, et puis après, il y aura le CFA. Plein de clubs vont mourir. Parce qu'ils n'auront plus les recettes qui collent à leur statut actuel. Donc dans les 5 ans, vous avez plein de clubs qui meurent. Donc il faut un plan de soutien. J'y pense beaucoup à ces clubs-là. Entre amateurs et professionnels, une spécificité française, ça va être compliqué. Mais si vous réduisez derrière tout ça, il y a quoi? Une fois que vous serez 16, on dira ah bah 14, et pourquoi pas 12? Mais pourquoi on ne serait pas 12 et puis on n'inviterait pas le Real Madrid et Barcelone? Vous allez droit vers la Ligue fermée. Derrière la réduction, le mot, c'est Ligue fermée. Voilà. La réduction, ça nous mène à cette Ligue fermée que les grands clubs veulent. Une fois qu'on sera 14, 12, 10, et puis ils seront entre eux.
Et même on peut aller plus loin, c'est qu'une fois qu'ils seront 14 ou 16, ça laissera beaucoup plus de temps pour faire cette fameuse super coupe d'Europe que tous les clubs veulent faire et qui va générer énormément d'argent. Ouais. Donc en fait, c'est une formule qui arrange les très grands clubs et qui va tuer les petits. Donc bon, est-ce que c'est ça le football qu'on a envie de voir? question se pose.
Moi, ce que je vois, c'est que l'Allemagne est passée à 18 et comme par hasard, c'est le championnat qui s'est le plus modernisé et qui offre à la fois du jeu, du spectacle, des beaux stades et un modèle économique qui fonctionne. Donc, je vois pas en quoi est-ce que ça pose problème. En plus, après, c'est mathématique. Si vous réduisez le nombre d'équipes, ça veut dire que la même somme de talent se divise dans moins de clubs. Donc, ça fait plus de talent et ça fait un football qui va forcément vers plus de qualité. Et si vous avez une situation économique où le gâteau se réduit, eh ben, il vaut mieux être moins sur le gâteau qu'être plus. Il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps. Donc, le sens de l'histoire aujourd'hui, c'est de réduire.
Mais le modèle télé, vous réduisez moins d'équipes, moins de matchs, moins de pay-per-view.
Oui, mais on en revient au Dijon-Brest. Personne n'achète.
Juste somme, au juste prix, et pas de distribuer un gâteau qui n'existe plus.
Sébastien Tarragou.
Non, mais on en revient. Mais je ne dis pas que c'est souhaitable, mais on en revient au Dijon-Brest que personne ne va acheter, et donc ça ne sera pas un problème puisque fondamentalement, il n'y a pas beaucoup de valeur ce match-là.
Bon, ben les supporters dijonnais et brestois apprécieront.
On les embrasse. Hein,
quand alors, je n'ai pas dit que c'était souhaitable.
Et je trouve que, Gilles, Sébastien, ce n'est pas une attaque personnelle du tout, mais je pense qu'on devrait faire aussi des sondages qualitatifs et quantitatifs en région pour savoir si les supporters ne s'intéressent pas tout de même à la vie de leur club et en ont pas
évidemment
un peu ras la casquette du Paris Saint-Germain, de Lyon et de l'Olympique de Marseille.
Évidemment qu'ils s'y intéressent, mais encore une fois, moi je suis favorable à ce que les talents soient répartis dans plusieurs clubs. Moi, je n'ai pas de solution miracle. La seule que je connaisse, c'est notamment que il y ait une obligation à ne pas avoir des joueurs formés sur le sol français, sur le sol allemand, etc. Moi, voilà, je ne crois pas que ce soit être rétrograde, mais j'aimais bien quand il y avait le Steaua Bucarest contre Barcelone.
Absolument.
En finale de la Ligue des Champions, à l'époque la Coupe d'Europe des clubs champions. Mais maintenant, ce n'est plus possible.
Tout à fait d'accord. La Coupe de France,
oui.
5 minutes. On a 5 minutes pour en parler, la Coupe de France. Il n'y a pas de lien direct, mais il y a des faits également.
Il faut se dépêcher. Hein.
Il y a le couvre-feu 18h. Ouais. Il y a l'hypothèse d'un troisième confinement. Mm-hmm. Les entraînements sont donc en pointillé. Gilles, vous me disiez la dernière fois qu'il y avait des entraînements. Tiens, mon œil, il n'y a pas d'entraînement. Ou alors c'est très particulier, il n'y a plus d'entraînement. Donc comment jouer la Coupe de France avec les clubs amateurs?
Il faut faire jouer les moins de 15.
Jeunes. Chez les jeunes, il y a des entraînements.
Ah, vous ne parliez pas des équipes premières amateurs.
C'est pour ça, on met les moins de 15.
Alors, c'est une Coupe de France.
La Coupe de France est en danger, Gilles.
Elle est quasiment morte parce qu'en plus, avec ce système à deux vitesses, là, c'est-à-dire qu'en gros, il y a deux moyens d'accéder au tour suivant, Ligue 1, Ligue 2, une voie, deux voies, c'est le grand truc. Et puis la voie des amateurs, bon, la voie Ligue 1, Ligue 2 encore, elle peut avancer, la voie des amateurs, elle est dans une impasse totale, il n'y a pas de match. Il faudrait qu'il y ait une succession de rendez-vous qu'on n'arrive pas à trouver, une date de reprise, non, là, ça paraît complètement incroyable. Je pense, enfin, ma crainte, c'est que pour la première fois depuis le drame de Furiani, première fois de l'histoire, il n'y a pas de finale de Coupe de France cette année. Il y avait 92 le drame de Furiani, il n'y avait pas eu la finale parce qu'il y avait le drame. Et là, j'ai peur qu'il y ait...
Alors, il y a toujours une Coupe de France.
Toujours.
Même pendant
la guerre.
Pendant la guerre,
toujours. Seul Furiani. J'ai peur qu'il n'y ait pas de finale de Coupe, j'ai peur qu'il n'y ait pas de Coupe.
Au-delà du fait
déjà qu'on a perdu
de rester en perfusion pour aller gratter 3 francs 6 sous et honorer un contrat télé qui a été passé à l'époque où ce n'était pas la crise. Vous en gardez quel souvenir, vous, de la finale de Coupe de France, PSG Saint-Etienne, qui aurait dû être un monument, le revival de Rocheteau des années 80, le Stade de France vert et bleu et rouge de l'autre côté.
La Coupe de France maintenant, Philippe.
Il aurait fallu supprimer celle-ci également, Philippe.
Bah oui, dans ridicule. Les conditions actuelles, à quoi ça sert?
Non, mais à quoi sert aujourd'hui?
À alimenter la perfusion.
Supprimer la Coupe de France, laissez-nous la Coupe de France.
La seule chose, c'est que si vous aimez autant la Coupe de France, c'est parce que c'est la rencontre entre le monde professionnel et le monde amateur.
Oui,
mais là, ce n'est pas possible.
Non, mais on est en situation de crise. Ben il faut maintenir coûte que coûte la Coupe de France, comme les organisateurs du Tour de France.
Quoi, tirer au sort,
coûte que coûte le Tour de France, pour le faire disputer au mois de septembre.
Mais si,
pas du tout.
Mais c'est impossible. Une équipe de première division et puis on fait la finale.
C'est impossible. Vous pouvez pas faire rentrer un 45 dans un 43 en chaussures. C'est pareil. Il y aura trop de matchs. Les joueurs vont se blesser. Ça va être une hécatombe. Ou alors, mais que les pros fait la Coupe de la Ligue, quoi.
Tout au long de la semaine sur RTL avec Nicolas Georgerot, que je salue au passage, on a fait des sujets, on a eu des présidents de clubs, des entraîneurs, des joueurs dans des clubs de R2, des clubs qui devraient participer à l'un de ces 126 matchs qui restent à jouer au 6e tour. Et ben moi je m'attendais à avoir des gens qui qui essayaient encore de s'accrocher au dernier espoir de la jouer, ils n'ont pas envie de la jouer aujourd'hui. Ils n'ont pas envie de la jouer.
Ils ne peuvent pas, de toutes les
façons. Parce qu'ils savent que qu'est-ce qui va se passer ? Ce sont les seuls qui vont peut-être pouvoir se réentraîner dans des clubs où tous les gamins ne peuvent pas s'entraîner. Ça ne les amuse pas. Ils vont finalement jouer le match. Il n'y aura personne. La buvette, elle sera fermée. C'est pas du tout l'idée qu'ils se font de la Coupe de France. Il vaut mieux bâcher et reprendre quand tout ira mieux.
Je crois que Gilbert va réagir à cela. Derrière la publicité, on parlera et de la Coupe de France, mais moi je vais vous parler du trophée des champions également remporté cette semaine par le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est un vrai trophée ou est-ce que c'est franchement, est-ce que c'est pas une mascarade? La publicité.
RTL, on refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
30 minutes d'on refait le match, mais là vous êtes déprimant, messieurs, je vous le dis tout de suite. Gilles Verdez, le procureur, Florian Gazan, multithématique sur l'antenne de RTL, avec la grosse cote notamment le samedi. Donc je comble un peu parce que j'espère pouvoir arriver jusqu'à 20h tranquillement, parce que je vous propose des solutions.
Mais non.
Sébastien Tarago, la chaîne L'équipe, oui, Philippe Sanfourche, rubrique football, défendez votre but.
Mais il y aura un accord, Christian, il y aura un accord, on l'aura l'accord. Il y aura un diffuseur. À un moment, la Ligue intéresse pour jouer diffuser et Canal veut diffuser. Donc il y aura un accord.
C'est pour ça que je vous racontais tout à l'heure l'histoire avec François Hollande, que vous m'avez regardé avec des yeux de Merlan Frit.
Oui, mais si on peut dire ça comme ça, effectivement.
Mais ça va se passer de la même manière. À un moment donné, parmi les 160 sujets qui sont d'actualité, le président Macron va prendre les deux minutes nécessaires pour prendre son téléphone, expliquer à M. Bolloré qu'il va accéder à certaines de ses attentes.
C'est compliqué.
Et qu'en attendant, il va falloir reprendre ses fameux droits parce qu'on se raconte des histoires, mais dans les faits, il n'y a que Canal qui est en capacité de les acheter,
ah oui,
à un prix qui sera certainement entre ce qu'ils doivent être à la justesse et ce qu'ils étaient avant, qui était totalement surgonflé. Et il y a 35 000 emplois à sauver et il y a des choses à pérenniser pour les.
Ne vous énervez pas, Philippe. Simplement la question, non, vous voulez travailler au service politique de RTL ou au service économique et social?
Les frais garantis par l'État vont être prolongés d'un an ou deux.
On vous propose des solutions, Christian, et puis vous nous rembarrez. On vous propose des solutions et vous nous dites non.
Je ne rembarre personne.
T'es pas à l'abri que Macron tombe sur le répondeur de Bolloré.
La Coupe de France, donc, c'est plié, on est d'accord. Vous vouliez ajouter quelque
J'ai une solution, moi, vous parlez de solution. Moi, j'ai une solution, ça s'appelle la Coupe d'été. Vous suspendez tout, on ne peut pas jouer. Vous mettez tout le monde. Bah, vous rigolez, j'ai une solution. Écoutez, juillet, août.
La Coupe d'été.
Arrêtez.
C'est Interville avec des machettes.
Je vous signale que la Coupe de France, l'été, se dispute déjà. C'est ce qu'on appelle les tours de cadrage.
Mais
pour
oui,
le
mais vous
voulez.
Bah, attendez, on est dans l'urgence. Mais je propose une solution et vous rigolez tous. On joue la Coupe d'été. Juillet, août, on accumule les matchs, il n'y aura plus de virus, on pourra jouer. On fait juillet. Bah, oh non, mais alors à ce moment-là, on ne joue plus jamais.
Bah, je ne sais pas, moi.
On joue la Coupe d'été sur deux mois, spéciale Coupe de France. Ça passionnerait la France entière. C'est le Tour de France de la Coupe de France.
Voilà ce qu'on d'accord. Donc on fait le championnat, on fait la Ligue des Champions, on fait l'Euro derrière et quand les gars sortent complètement rincés.
Mais les clubs amateurs,
il y a les Jeux Olympiques. Il y a les Jeux Olympiques.
Bon. Il va jouer 140 matchs.
Appelez aussi au retour du dopage, moi, qu'on y est.
Non, mais attends,
comme ça qu'on va y arriver.
Sérieusement. Quand il y a eu la pandémie et que nous avons été confinés en mars, moi je me souviens avoir lu une première dépêche avec les organisateurs du tournoi de Melbourne, qui donc devait se disputer en janvier 2021, qui disait on s'attend déjà à organiser un tournoi sans public. On était en mars. Quand j'ai lu ça, j'ai dit non, mais attendez, c'est quoi cette histoire? C'est des fous. 7 mois plus tard, ils avaient raison. Ils avaient raison de le prévoir parce qu'il se trouve que c'est la catastrophe. Donc moi, j'espère que vous avez raison. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'on va en sortir.
Bon, la Coupe de France, c'est presque plié. Le Trophée des Champions, est-ce que le Trophée des Champions, bon sang de bonsoir, a sa place dans ce calendrier resserré?
Moi, je vous le dis, je trouve ça grotesque. Vous savez, et Dieu sait que je suis conscient d'avoir la chance de pouvoir encore assister à des matchs et d'aller dans des stades là où tous les amoureux de football ne peuvent plus aller. Mais quand mercredi soir, j'ai pris ma voiture à RTL, j'ai fait 250 km sous la pluie pour arriver.
Oui, mais c'est votre problème.
Non, mais j'arrive au stade Bollaert.
Vous avez tweeté avec une barquette de fric et
mais
avec
oui,
un sandwich américain.
C'est justement pour rappeler que ça peut être éventuellement un souvenir de ce qu'était le football avant. Mais vous vous retrouvez au stade Bollaert, cette enceinte de 45 000 places où normalement la passion résonne. Et il n'y a rien, il n'y a personne. Le speaker, il parle pour personne. Et il y a Neymar sur la pelouse qui est payé une fortune pour jouer devant personne.
Non, mais ça,
et on fait
mais
un trophée entre
les
équipes qui ont gagné. Le PSG qui a gagné il y a plus de 6 mois des trophées dont on ne parle plus. Et l'OM qui est invité parce qu'ils étaient deuxièmes d'un championnat qui n'est pas allé à son terme. Ah, mais c'est quoi ce match?
On est d'accord avec Philippe Sanfourche, hein?
Non, mais le trophée des champions ne m'a jamais paru être une grande idée. Mais bon, après, quand il est placé dans le calendrier,
ouais, c'est l'ouverture,
fin juillet, voilà, bon. Pourquoi pas? Mais ouais. C'est encore une fois, on cherche des sous tout le temps. En Espagne, ils peuvent pas le faire, mais l'année dernière, la Super Coupe d'Espagne, ils l'ont joué en Arabie Saoudite. Enfin bon, voilà, le football marche sur la tête, c'est pas nouveau. Et aujourd'hui, ça apparaît de manière flagrante.
Bon, bah écoutez,
moi je vous comprends pas. Hein. Il y avait un match avec un superbe geste de Neymar symbolique dans les bras de son entraîneur. Il y a eu des gestes forts, il y a eu un vainqueur, il y a eu un vaincu correct. Je vois pas pourquoi en Espagne là il y a des grands matchs au milieu de semaine. En Allemagne on a joué la coupe en milieu de semaine. Je vois pas pourquoi vous voudriez supprimer et je vois pas pourquoi vous émettez un jugement si sévère sur un match fort honorable.
Oui,
je ne comprends pas le déchaînement là.
C'est la temporalité, Gilles. Ça n'a pas de sens de faire le trophée des champions alors que la saison est à la moitié.
Mais ça n'a pas de sens de
moitié.
Faire les Jeux Olympiques un an après et l'Euro qui va se faire un an après. Rien n'a de sens en ce moment, on fait ce qu'on peut.
Ça,
mais je vous trouve complètement délirant.
35-28, c'est le score des handballeurs français face à l'Autriche. Le trophée des champions qui a été une suite ensuite de chambrage.
Ah oui.
Entre joueurs parisiens et marseillais, est-ce qu'on peut
le moment saillant du match,
est-ce qu'on peut chambrer encore dans le monde d'aujourd'hui?
Mais j'espère que non.
C'est la question qu'on va
poser. On le fait un peu ici quand même.
Après
hein.
La publicité.
Ah, pardon. Bien sûr.
RTL, on refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
La suite n'est pas encore la fin d'On refait le match avec Sébastien Tarrago, la chaîne L'Équipe, le procureur Gilles Verdez, Florian Gazan, RTL et Philippe Sanfour, chef de la rubrique foot de RTL. Un auditeur très assidu qui a retenu tout à l'heure ma proposition sur les contrats et sur les transferts. Il me dit mais un joueur signe, il doit aller jusqu'au bout de son contrat. Gilles Verdez, vous n'avez rien compris. Puis ensuite il ajoute, il n'y a pas de transfert dans la vie professionnelle. Et il renchérit. Dans la vie professionnelle, un salarié quitte son entreprise avec un préavis. Ensuite, le football déroge déjà à la législation commune.
Et pas sur des CDD.
Et il termine ainsi. Si plus de transfert, plus de com, plus d'argent sale.
Moi, je suis d'accord, quoi. Mais il faut que tout le monde le fasse, alors.
Mais non, mais un CDD et un CDI, c'est pas pareil, déjà. Et en plus, par exemple, il y a des gens qui ont des contrats, notamment dans le monde de la télévision, qui ont des contrats en CDI et qui après, parce qu'il y a des clauses dans le contrat, qu'ils ne peuvent pas rejoindre la concurrence
dans l'année qui suit
ou les deux années qui suivent. Donc, dans un contrat, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et un CDD, en l'occurrence, les joueurs de football signent des contrats à durée déterminée. Non, il faut racheter ton contrat. On peut te laisser partir, mais on peut ne pas te laisser partir.
Question sérieuse. Peut-on encore chambrer dans le football? Alors, il n'y a pas une journée de championnat, il n'y a pas un match où il n'y a pas un chambrage à la fois sur le terrain, parfois dans les tribunes quand il y a des spectateurs, mais de plus en plus maintenant sur les réseaux sociaux.
Pourquoi
j'avais envie de vous poser cette question? D'ailleurs, elle a été un peu initiée par Philippe Sanfourche parce qu'effectivement, il y a eu un nouvel épisode entre Parisiens et Marseillais sur les réseaux sociaux. Neymar et Payet. Alors, on réexplique.
Alvaro.
Vous vous souvenez que Payet, il y a quelques semaines, avait montré l'étoile du maillot de l'Olympique de Marseille en rappelant que Marseille avait gagné la Ligue des Champions.
Vrai. Il avait retweeté un message de quelqu'un qui disait
Vous avez décidé de me contrarier jusqu'à la fin de l'émission.
Mais non, mais il n'avait pas fait. Mais je suis désolé.
Mais quand vous retweetez, c'est consentir.
Oui, mais c'est pas lui.
C'est
pas lui qui a fait sa petite vidéo chez lui avec son maillot du PSG. Oui, mais
pour chambrer le Paris Saint-Germain.
C'est une démarche consciente, Jean-Sébastien.
Oui, mais je dis juste.
Ça aurait voulu dire qu'il avait un maillot du PSG chez lui. T'imagines quand même.
Là,
je vais revenir la semaine prochaine.
Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé dans les vestiaires de Bollard? C'est Neymar qui montre l'étoile du maillot de l'Olympique de Marseille, puis ensuite qui efface le maillot, c'est ça, et qui montre le maillot du Paris Saint-Germain
avec la mise en scène, mais
avec la médaille Ligue des Champions.
Mais ça choque quelqu'un?
Inversé.
Non, personnellement, non, mais je me pose la question parce que visiblement ça a choqué beaucoup.
Moi ça m'a choqué. C'est-à-dire que ce qui me choque, non, mais à la question peut-on continuer à chambrer dans le foot, la réponse est évidemment non. Parce que vous avez.
Ah bon?
Bah, pour moi en tout cas, la réponse est évidemment non. Parce que chambrer, ça veut dire quoi? Chambrer, ça veut dire attaquer l'appartenance à un club, à une entité, discriminer. Ça veut dire potentiellement être raciste. Ça veut dire potentiellement dérivé. Je mets potentiellement.
Potentiellement
chambrer
dérapé.
Aujourd'hui, ça veut dire potentiellement aller vers de l'illégalité, aller vers de la violence, aller vers
ça,
des
Gilles.
Choses qui sont
donc,
contestables.
Pour la prévention,
non, mais Gilles, tu peux pas
délit,
dire ça.
On s'interdit absolument tout. Alors.
Ça veut dire qu'on fait plus de blagues parce qu'une blague peut être raciste ou antisémite, donc on fait plus de blagues.
Donc l'altérité,
les grosses têtes alors.
Dans le football.
Non, mais tu peux pas, Gilles.
Peut-on chambrer dans le football? Aujourd'hui, on ne peut plus chambrer.
Ça dépend du chambrage.
Bah évidemment, un truc rigolo où il n'y a pas d'enjeu.
Il y a quelque chose qui n'était pas discriminant, mais dont je me souviens, et ce sont les mêmes d'ailleurs qui s'offusquent du chambrage. qui disait à l'époque, c'était en 2018, qui acceptait le chambrage, c'était bien 2018, Fekir, devant les supporters stéphanois et qui montrait le maillot de l'Olympique Lyonnais, n'est-ce pas ? Et le match avait été arrêté.
Parce qu'il y a des fous furieux en tribune.
Les mêmes qui disaient, mais attendez, c'est du chambrage, ça existe, on peut... Les mêmes, je ne donnerai pas de nom, mais je les ai repérés. Les mêmes qui, il y a 3 ans, eh bien, disaient, on peut quand même chambrer, disent, là, il ne faut pas chambrer.
Vous me visez ou pas ?
Non, pas du tout, pas dans ce studio.
Déjà, bon, je ne sais pas à qui vous pensez, mais parfois dans la vie, ça peut nous arriver d'être en contradiction. Mais moi, en l'occurrence, je n'étais pas choqué par ce qu'avait fait Nabil Fekir. J'étais choqué par la réaction du public. Et de la même manière, Dimitri Payet fait bien ce qu'il veut et Neymar fait bien ce qu'il veut. Parce qu'après, ça se règle tant que ça. Gilles, t'as développé ce que tu avais à développer. Je vais développer aussi.
Sauf que c'est un chambrage dangereux quand même, Fekir.
Oui.
Parce que s'il appelle à l'émeute.
Je comprends. Il appelle pas à l'émeute. C'est le problème.
C'est pas pareil.
C'est qu'il y a des fous furieux qui puissent considérer qu'ils doivent faire une émeute parce qu'il y a un gars qui vient les chambrer.
Parce que vous savez qu'il y a des fous furieux dans une tribune que vous pouvez éviter effectivement de chambrer.
Responsabilité et
des robots.
Allez, responsabilité.
Non, mais c'est pas pareil. S'emmerder.
Mais non, une star, elle a une responsabilité.
Chambrage et chambrage. Moi, je considère que le chambrage Neymar, Payet, etc. Moi, ça me va. Ça sur les réseaux sociaux, personnellement. Mais le chambrage Fekir qui appelle quasiment, qui peut provoquer une émeute, c'est pas pareil.
Non, mais c'est pas pareil. Non, mais quand c'est entre joueurs, voilà, limite, c'est de la rigolade en chauffe. Quand c'est un joueur qui va provoquer une tribune, c'est potentiellement plus dangereux sur les réactions. Moi, ce qui me dérange avec le chambrage, c'est que je trouve que pour le coup, la Neymar est très débile d'avoir fait ça. Parce qu'il y a un match à Marseille le 7 février et c'est sûr qu'en faisant ça, il met de l'huile sur le feu.
Mais c'est l'histoire
du
foot.
Et s'il se retrouve blessé alors qu'il y a en fait, Barcelone derrière, mais c'est débile de sa part.
Non, mais il fait ce qu'il veut. C'est l'histoire du foot. Tu chambres, parfois tu chambres avant les matchs et après, tu es sur le terrain et t'assumes ou pas. Et ça a toujours existé. Toujours, de tout temps. Et par exemple, Dimitri Payet, qui l'a fait il n'y a pas très longtemps, avant de venir au Parc des Princes, eh ben, il était là, solide sur les appuis, et il a assumé sur le terrain.
Complètement.
Eh ben, c'est un problème entre toi et toi. Ouais. Tu sais effectivement que si tu chambres, peut-être que tu vas te faire découper. Ok.
Philippe Sanfourche.
C'est l'essence du football de haut niveau. C'est la raison pour laquelle on est tous autour de cette table, parce qu'il y a une émission qui s'appelle On refait le match. On pourrait faire. Le football n'est pas un sport plus noble ou plus intelligent que le handball, le basket ou le tennis. Il se trouve qu'on l'adore, le football. Mais pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce que le football génère ça? Parce que la passion est supérieure dans ce sport qu'elle ne l'est dans les autres. Parce que quand on porte le maillot de l'OM, et quand on porte le maillot du Paris Saint-Germain, de Saint-Étienne, de Lyon, il y a des histoires, il y a des antagonismes, il y a du chambrage. Si on arrête ça, eh ben le football n'est plus le football. Il n'y a plus d'émission, il n'y a plus rien.
C'est
et on
ne
fait pas
fou.
Tous les débats sur les droits télé, sur les trucs, parce que les droits sont 10, 15, 100, 1000 fois supérieurs aux autres sports.
Et
si on enlève la passion dans le foot, on enlève tout ce qui fait
et
l'essence
c'était 10 fois plus
du
avant.
Football de haut niveau.
C'était 10 fois plus avant, parce qu'il y avait des joueurs qui avaient justement une relation plus forte avec leur club parfois. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que ça, les joueurs changent plus facilement de club.
On dit que les mecs sont les
mercenaires. On lisait pas sur les lèvres, on n'entendait pas tout ce qu'ils disaient. Je vous garantis que sur les terrains, ça y allait sévère.
Enlever la passion, Philippe, n'a rien à voir avec enlever les débordements liés à cette passion. On garde la passion, mais on enlève tout ce qui entraîne potentiellement des troubles.
Les débordements, c'est la violence. Et la violence, elle est condamnable. Mais par contre, le chambrage, c'est pas...
En 2018, le match a été arrêté.
Mais alors, c'est de la faute de qui?
C'est de la faute de qui, voilà.
C'est de la faute des gens qui n'ont pas respecté, la loi.
Non, d'un chambrage excessif.
Mais c'est rien.
Le match a été arrêté.
Mais c'est rien. Mais parce qu'il y a des abrutis qui ont décidé qu'il fallait arrêter ce match.
Mais comme on sait que dans une tribune, il y a une minorité, je dis bien une minorité d'abrutis, on évite de faire ce genre de choses.
Vous savez quoi?
Il y
a une minorité d'homophobes, alors les homosexuels vont plus aller dans la rue. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est abracadabra.
Bon, moi, je vais vous donner un autre exemple de chambrage, et celui-ci, je l'ai accepté. Villas-Boas, c'est des petites phrases. Ça, c'était amusant en disant du Paris Saint-Germain le plus grand honneur, c'est cette fête qu'ils font comme s'ils avaient gagné la Ligue des Champions.
Mais oui,
ça,
c'est bien.
Je pense que les dirigeants du PSG n'ont pas dû apprécier cette saillie de Villas-Boas, mais au moins
j'espère
ça,
qu'ils ont d'autres soucis.
C'est pas intelligent. Excusez-moi. Ça passe, mais c'est pas intelligent.
Ça passe. C'est bien.
C'est un peu aigri, quoi.
C'est pas intelligent. C'est stupide. C'est pas drôle.
Mais chambré, c'est puéril.
Hyper.
C'est pas grave.
Une analyse hyper. Il dit on était les meilleurs sur le terrain. Absurde. Ensuite, il dit oui, je sais pas quoi. Il fait comme si, en fait, de l'ironie sur cette défaite.
C'est drôle.
Mais il était en position.
Mais après, il fait très du objectivement, il a pas, d'un point de vue purement factuel, il n'a pas complètement tort. Moi, je les ai vus, les scènes de Lies. C'est un trophée des champions. Je veux dire, on parle du PSG qui a été en finale de Ligue des Champions et qui a gagné 4 trophées la saison passée, dont le championnat, la Coupe de France et la Coupe de Ligue. C'est un trophée mineur quand même.
Bah, bon, écoute,
et ils avaient vraiment la volonté d'être dans la démonstration à outrance. Et je pense que s'ils avaient gagné cette finale contre Strasbourg, contre Dijon, ils auraient fait le quart.
Ça me rend Neymar sympathique parce que je me dis que tout Neymar qu'il est,
c'est un gamin, il aime
gagner
le trophée,
qui a tout gagné, c'est un gosse qui a un rapport au football enfantin.
Vous parce que le panneau, Sébastien, la joie,
parce que, démonstration. Parce que vous voyez la démagogie pour le public.
La démonstration de joie de Neymar et du Paris Saint-Germain, c'est magnifique. C'est pour chambrer les joueurs de Marseille qui étaient restés dans le groupe central.
Mais c'est le foot.
Neymar, il n'en a rien à cirer du trophée des champions.
Il est content d'avoir battu l'OM et qu'à la fin, même si c'est une médaille en chocolat, c'est lui qui l'a.
Pour chambrer les Marseillais.
Ce qui est hallucinant, c'est quand Neymar choisit ses matchs.
C'est fou
vous dites
ça,
qu'il choisit ses matchs, il veut que la Ligue des Champions. Quand il marque un but et qu'il est content de gagner le trophée des champions, vous dites que c'est de l'hypocrisie. En fait, vous n'aimez pas Neymar. Vous avez un problème avec Neymar.
Mais moi, je suis un fan absolu.
Et quand il est couru vers son entraîneur,
c'est
encore
Philippe,
la chair de poule.
Non, mais c'est Philippe, c'est pas Philippe.
Mais non, mais c'est Philippe.
Dit la même chose que vous.
Bravo Philippe.
C'est pas que je n'aime pas Neymar. C'est simplement que c'est du chambrage.
Non, mais c'est fou.
Ça me va. Il y a pas de problème.
Christian, c'est fou comme de dire qu'aujourd'hui on va reprocher à des gens d'être contents de gagner un trophée.
Il dit que c'est fou. Vous voulez me faire croire qu'avec l'exultation qu'on a vue de Neymar, peut-être pas certains autres joueurs, Florenzi, lui, c'était son premier trophée sous les couleurs du Paris Saint-Germain.
Il était très heureux.
Neymar, heureux, tel qu'on l'a vu, parce qu'il avait gagné le trophée des champions.
Non, parce qu'il a battu.
Il fasse la gueule.
Vous êtes des mais entre faire la gueule et la démonstration de joie qu'on a vue, vous êtes des bisounours pour faire croire qu'il était heureux.
Mais non, mais Christian, il est heureux parce qu'il a gagné un trophée. Enfin. Il est heureux parce qu'il a battu Alvaro avec qui il avait contention.
Vous ne croyez plus. Il était heureux parce qu'il a battu Alvaro.
Oui, le chambrage. Mais non, mais.
Tiens, à propos, la petite phrase, Alvaro, tu seras toujours dans l'ombre de Pelé, lui a dit Alvaro à Neymar. Ouais. Neymar lui a répondu et toi tu seras toujours dans la mienne.
Ça c'est drôle.
C'est drôle.
Bien sûr c'est drôle.
Bah,
mais
ça, c'est
pas plus drôle ou moins drôle que le reste.
Ah, mais attention parce que si vous écoutez Gilles, ça c'est terrible, ça peut
ça va au tribunal. Bah,
il faut absolument pas qu'on laisse dire ce genre
Alvaro
de choses.
C'est grave. Il y a quelques semaines.
Après, ça peut
les deux nous ont fait moins rire.
Après, ça peut provoquer une cheville brisée de Neymar au sein de cette équipe.
Vous savez, il y avait un très grand joueur. Mais il y a un très grand joueur des années 80 au FC Nantes. Il était, je crois que c'était Henri Michel. Il était pas content d'un adversaire. Il l'a chambré, il lui a fait un petit pont. Il est passé à côté. Il lui a dit respire. Et la personne qui m'a raconté ça, il m'a dit mais le problème c'est qu'Henri il a respiré pendant longtemps chez lui derrière avec le tac qu'il a pris et qui lui a cassé le genou. Ben voilà, c'est le foot, c'est comme
non,
ça.
Non, c'est pas le foot de casser les genoux.
Mais j'ai pas dit ça, c'est l'histoire du foot.
Non, mais vous dites n'importe
c'est l'histoire du foot, Gilles. C'est l'histoire du foot. De chambrer, c'est l'histoire du foot. Et après les grands joueurs, ils ont toujours fait ça et ils l'assument sur le terrain.
On s'ennuyait terriblement ces dernières années avec les classiques, les PSGOM, passaient les uns après les autres, on n'en parlait plus, ça n'intéressait plus personne. Et là, manifestement, depuis un an, l'étincelle, quand même, est repartie.
Alors, ma question, c'était, peut-on encore chambrer en football ? Non, Gilles Verdez. chambrage intégral pour Sébastien Tarrago.
Dans le respect de la loi.
Non,
chambrage sélectif pour Philippe Sanfourche et Florian Gazan.
Ouais, chambrage.
Ah non, mais c'est l'essence du foot.
Faut pas confondre chambrage et provocation, hein, c'est tout.
Bon. 19h. Ouais. Et
5... Ça germine une pièce, non ?
C'est une thèse. On peut faire une thèse.
Et j'ai pris vraiment 2-3 chambrages, 2-3 épisodes à la suite du Trophée des Champions.
Ouais.
Oui,
c'est vrai. Hein. Voilà.
Est-ce que le Trophée des Champions, c'est pas une provocation au football, les gars ?
Oh !
Mais oui, il est en forme.
Vous n'aimez rien, Christian. Christian, la seule chose qui l'intéresse, c'est d'aller voir un club de 8e division en banlieue parisienne en Coupe de France.
Mais
voilà,
oui,
c'est tout.
Non,
c'est tout.
Mais pas du tout.
Si,
ça m'intéresse aussi.
Ah.
Vous êtes caricatural, cher Sébastien Tarrago.
Mais vous aussi, vous êtes caricatural.
Non, mais pas du tout. J'aime bien commenter la finale de la Coupe du Monde 98 et 2006 comme je l'ai fait. Et j'aime bien voir.
Avec talent.
Et je n'ai pas dit cela.
Moi, je le dis.
Mais j'adore. C'est un plaisir. Cher Sébastien, d'aller voir derrière une main courante un match de district, effectivement.
Mais
c'est
un vrai
plaisir. Vous seriez pas en train de vous chambrer là
on est d'accord. Alors je crois que Christian n'est pas du tout dans le second degré là.
Pas du tout. Mais vous, est-ce que vous allez voir les matchs amateurs, Sébastien Tarrago ?
Sébastien, vous rigolez.
Mais vous plaisantez. Moi j'ai été élevé à l'école de Gilles Verdez. Gilles Verdez, déjà quand il allait en province, il voulait toujours rentrer à Paris en voiture parce qu'il voulait pas dormir.
Je ne rigole jamais avec le football amateur.
C'était Ça, c'est honteux. C'était pour être à l'entraînement le lendemain. Ça, je rentrais de partout en voiture pour être à l'entraînement du camp des loges le lendemain. Alors, arrêtez.
Ça, et ça faire s'appelle des économies chambré. Aux journaux.
Il y a les tirs au but derrière.
Ça s'appelle. C'est un outing footballistique, ça.
Il y a les tirs au but qui arrivent derrière la publicité, Sébastien Tarrago. Et je précise que je ne rigole jamais avec le football amateur. Et
vous avez raison.
Publicité.
Vous rigolez jamais.
Coupez-moi les micros, s'il vous plaît. Publicité.
RTL, on refait le. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
19h53, les tirs au but avant RTL Foot. On a commencé avec une certaine forme de sinistrose pour l'avenir du football français. On va terminer dans la bonne humeur, bien évidemment.
Pourquoi vous regardez, alors, Christian ? On va essayer de vous détendre.
Je vais essayer de faire un petit choix dans mes tirs. Oh, non, mais je suis parfaitement détendu. Ne cherchez pas, Sébastien Tarrago. Ne faites pas le faux décontracté.
Alors, plus l'octogone.
Je vais essayer le coup de sifflet. Vous attendez le coup de sifflet. Les différentes coupes européennes là, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, vous vous rappelez, Leeds a été éliminé par une
D4.
Une D4. Ouais. Le Bayern a été éliminé par une D2. Ouais. Le Real a été éliminé par Bilbao. La question que j'avais envie de vous poser, est-ce que nous, observateurs, commentateurs, parfois on n'a pas la main lourde quand on a les mêmes commentaires, mais quand on est très critique avec les clubs français éliminés en pareille circonstance ?
Non.
Pardon,
j'avais pris un peu d'avance.
Allez, on y va.
Vraiment. Mais alors, il se trouve que la Super Coupe d'Espagne, on la diffuse sur la chaîne Équipe et j'ai eu le plaisir de le commenter. Quand vous voyez jouer la Real Sociedad et l'Athletic Bilbao, je vous garantis que ça vous fait peur par rapport au niveau du championnat français. Et là, c'est une réalité. C'est-à-dire que, par exemple, il y en a une qui a perdu au tir au but contre Barcelone et l'autre qui a battu le Real Madrid. C'est d'un niveau remarquable. Alors, on pourra me dire, la Real Sociedad est cinquième du championnat d'Espagne, certes, mais ils avaient gagné un match lors des 12 précédentes rencontres. Donc c'était pas une équipe en grande forme.
D'accord, mais le Leeds de Bielsa, par exemple.
Non, mais après le Leeds de Bielsa, bon, je sais que vous faites une petite fixette, j'ai regardé un petit peu Leeds jouer cet après-midi. J'ai pas vu tout, mais j'en ai vu une partie. C'était pas terrible. Mais c'est en fait, on s'en fiche de ça, Christian. C'est juste qu'il y a vous êtes, et moi je suis comme vous, on est agacé parfois contre Bielsa parce qu'en fait il y a une communauté qui s'agrège autour de lui qui nous agace parce que c'est des ayatollahs. Mais voilà, sinon c'est bien qu'il existe Marcelo Bielsa dans le football quand même.
Allez, deuxième tir au but, 19h54. À la mi-journée, Didier Deschamps était l'invité du journal Inattendu sur RTL. Il est revenu sur l'épisode Karim Benzema. Trois phrases sur le même thème. Il a insisté, on ne peut pas oublier, je ne peux pas oublier. Je n'oublierai jamais. Comprenez-vous la souffrance ? Comprenez-vous la souffrance, j'ai envie de dire la souffrance familiale, parce qu'il faut contextualiser, qui se transforme en rancune de la part de Didier Deschamps. Est-ce que vous la comprenez ?
Totalement. Dès que ça touche à sa famille, alors je ne sais pas si il aurait dû rappeler Benzema ou pas, c'est un autre débat, mais dès que ça touche à sa famille, moi je me souviens, il y a des années, quand je suis en équipe de France, j'avais fait un article sur lui en disant qu'il était sorti après un match, il m'avait appelé, il m'avait demandé d'aller chez lui dans le sud, devant sa famille, et je m'étais trompé, c'est une erreur que j'avais commise journalistique, il n'était pas sorti. Il m'avait appelé très cordialement, mais fermement, en disant « viens », j'étais au Parisien à l'époque, et il m'avait dit « tu as dit devant ma famille, tu as écrit dans un journal, tu vas dire devant ma famille, est-ce que je suis sorti après une défaite ?» J'avais dit « non, j'ai commis une erreur ». Il avait voulu que je le restitue en famille, ça montre l'importance pour lui de sa famille. On a touché là à sa famille, avec le tag, c'était fini dans sa tête.
Il a une forme d'honnêteté aussi, en rajoutant que ce n'est pas uniquement contre Karim Benzema.
Tout à fait.
Parce que je crois avoir lu à peu près les propos. Et qu'il dit, cette déclaration de Karim Benzema a eu des répercussions et d'autres ont fait des déclarations qui m'ont beaucoup touché. Donc il ajoute quand même cela. Il ne parle pas que de Karim Benzema. Mais c'est quand même très intéressant par rapport au sélectionneur de l'équipe de France. C'est-à-dire que moi je trouve que ces derniers temps, d'ailleurs Philippe Sanfourche lui avait fait dire quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas dit sur la liste des 23 qu'il avait déjà en tête. Je trouve qu'il en donne un tout petit peu plus. Et là, quelque part, il reconnaît, pour la première fois quelque part, que c'est un choix personnel de ne pas prendre Karim Benzema pour des raisons personnel qui lui touche que lui. Et c'est une première, je crois.
Troisième tir au but ou... Troisième tir au but
Juste pour finir sur ce dossier-là, c'est aussi une façon de mettre fin à toutes ces suspicions de dirigisme politique qui ferait en sorte qu'on lui demande de ne pas prendre Karim Benzema. Il assume le fait de ne pas prendre Karim Benzema.
Il y a un candidat à la présidence de la Fédération française de football qui s'appelle Michel Moulin, qui estime que le sélectionneur est un employé et qu'il doit se soumettre quasiment au choix du président de son employé.
Il a bien commencé.
Il a
bien commencé sa campagne, franchement, et on en entendait pas moins de lui. C'est-à-dire que c'est absolument ridicule.
Mais il a qu'à devenir sélectionneur.
Et non, pas, bah, n'en
si
parlons
il est
même pas.
Il sera sélectionneur aussi.
Olivier Giroud revient peut-être d'une certaine façon sur sa position concernant un éventuel transfert à la Juve. On sait que ça va très vite, a-t-il dit cette semaine. Une condition, peut-être. Ça, il ne le dit pas, mais c'est ce qu'on a cru comprendre. Je veux 1,5 an de contrat et non pas jusqu'à la fin du mois de juin. De Chelsea à Turin, est-ce que Olivier Giroud ferait le bon choix ?
Pourquoi pas, ah oui, pourquoi pas. Après, il y a une volonté dans son entourage pour d'aller en Italie si c'est possible, parce qu'on considère que c'est un championnat qui va lui permettre de durer plus longtemps. Olivier Giroud, il ne s'en cache pas, il a envie de jouer encore longtemps. Pourquoi pas 3-4 ans. On considère, parce que le championnat italien va moins vite que le championnat anglais, il a d'autres qualités, qu'il durera plus longtemps en Italie. Donc s'il y a une opportunité, je pense qu'il la saisira.
Un dernier tir au but, vous le savez, le dernier tir au but est toujours en lien avec la programmation dans RTL Foot. Ce soir, intégralité d'Angers Paris Saint-Germain. Avez-vous déjà senti un changement dans le jeu du Paris Saint-Germain depuis l'arrivée de Pochettino ?
Oui,
Philippe Sanfourche.
Bah oui, manifestement, puisqu'il a fait des choix assez forts, et notamment celui de demander à Marco Verratti d'être beaucoup plus dépositaire du jeu, et ce qui m'a beaucoup surpris, même quand Neymar est sur le terrain. Donc, est-ce que sur la longueur, c'est une solution pérenne ? J'ai encore beaucoup de doutes, mais en tout cas, il y a des choix. Il y a des choix qui sont déjà, qui tranchent par rapport à ceux qu'il y avait avant.
On fait le match, est terminé.
Déjà ?
Merci de votre participation, de votre bienveillance.
Merci de votre tolérance.
Et merci surtout de votre optimisme pour le football. Sébastien Tarrago, la chaîne d'équipe, le procureur Gilles Verdez, Florian Gazan, RTL, Philippe Sanfourche, chef de la rubrique foot. Et à très bientôt, bien évidemment. Merci en tout cas de votre participation à On refait le match. Merci à vous tous de votre fidélité. 20h-23h, RTL Foot. Ciao, ciao.
RTL, on refait le...